Bonjour et bienvenue, c'est Comme un briquet court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter.
En direct du studio 521, c'est l'émission réalisée par Jérôme Chélius, assistée de Lucie Spindler, avec à la technique aujourd'hui Stéphane Boja et Ronan Mahé.
Au sommaire cette semaine, 2 ans de guerre au Yémen, la coupable indifférence de la France et violence policière à Saint-Denis, ça continue.
J'entends de part et d'autre des mots casseurs, une jeunesse qu'on dit cagoulée. Mais chaque jour, c'est à visage découvert que je les vois se construire ensemble sur les bancs de nos écoles. Ce sont eux qui construisent notre futur.
On vend les armes qui sont en train de tuer des populations dans un pays et on n'en parle pas, quoi.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Comme un bruit qui court, quand c'est temps difficile, il ne faudrait pas se priver de parler aussi des bonnes nouvelles. Car oui, le chômage repart à la hausse, oui, les délocalisations se poursuivent, emportant emploi et lave-linge à l'autre bout de l'Europe, oui, la République exemplaire a du plomb dans l'aile. Mais il y a des domaines où la France excelle, où l'on peut se gargariser des performances de nos exportations, du renforcement de notre filière industrielle et du succès historique de la France. Et oui. Et heureusement, Jean-Yves Le Drian est là pour nous rappeler qu'en 2016, plus de 20 milliards d'euros de commandes ont été prises et que la France est passée numéro 2 pour les ventes d'armes. Et tant pis si pour ce faire, elle aurait violé la moitié des embargos en vigueur, selon l'Observatoire des armements. Car s'il y a un domaine où la transparence est aux abonnés absents, c'est bien celui des ventes d'armes. Ni commission d'enquête, ni débat public, et hormis quelques ONG, peu de gens pour sensibiliser l'opinion publique sur l'autre facette de cette performance française. Alors à l'occasion des 2 ans de la guerre au Yémen, Guy Vanctil s'est intéressé à ce conflit oublié, où les civils sont pourtant sous le feu des chars Leclerc et des Mirage 2000. Car si d'un côté on crée des emplois, de l'autre on compte les morts. Mais auparavant, on part à Saint-Denis avec Antoine Chao, où lycéens, professeurs et parents se sont mobilisés mercredi dernier pour dénoncer les violences policières intervenues devant le lycée Sugère. Comme un bruit qui court, violences policières au lycée Sugère et 2 ans de guerre au Yémen, l'autre facette de la République exemplaire, c'est jusqu'à 17h sur France Inter et c'est parti.
Antoine Chao, Charlotte Berry,
Guy Vanctil. Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Est-ce que tout le monde est là? Alors on y va. En direction de Saint-Denis Université. Je répète, direction Saint-Denis Université. Le voyage 100% électrique, 100% underground. Ciao. Je vous souhaite une excellente soirée.
Bonjour, je m'appelle Dominique, je suis professeur au lycée Sugère depuis une dizaine d'années.
Le 7, nous avons à nouveau été victimes de violences.
Je ne sais pas s'ils sont du lycée, s'ils sont extérieurs au lycée. On commençait à caillasser à partir du parvis sur des vitres, notamment de la salle des professeurs et des salles de cours.
Cette fois-ci, dans l'enceinte du lycée, à l'heure de la récréation, un mortier a explosé. C'est une espèce de gros pétard qui fait une énorme détonation et l'alarme n'a pas retenti.
Suite à une évacuation du lycée, il y a eu 55 jeunes qui ont été interpellés de façon totalement aléatoire.
Alors que l'affaire Théo a ravivé la tension entre les jeunes et la police dans les quartiers populaires et la mobilisation dans les lycées, que la marche pour la justice et la dignité organisée le 19 mars à Paris par plusieurs familles de victimes de violences policières a mobilisé plus de 10 000 personnes, l'attitude des forces de l'ordre autour du lycée Sugère rajoute de l'huile sur le feu. Et les parents d'élèves et enseignants du lycée Sugère et d'autres établissements de Seine-Saint-Denis se sont mobilisés pour dénoncer les arrestations massives et aléatoires et un usage disproportionné et dégradant de la force sur leurs enfants et élèves. C'était mercredi, devant la basilique de Saint-Denis, et nous demanderons aussi un éclairage au sociologue Marwan Mohamed sur la question des violences policières.
C'est ça, c'est une pancarte, il y a des slogans derrière, il y a des machins, il y a des bidules.
Nos enfants ne sont pas des racailles, ils sont notre espoir.
Alors moi je suis Mehdi et je suis habitant de Saint-Denis et lycéen au lycée Sugère. Voilà, j'ai 15 ans.
Comment t'expliques, toi, ces Mehdi, ce qui s'est passé? C'était lundi 6 et mardi 7 mars, donc.
Ouais. Bon, lundi, il y a eu quelques jets de pierre sur la façade et sur des vitres. Quelques feux de poubelle, des détritus lancés par terre. Bon, sans plus. Et par contre, mardi, il y a eu une explosion d'un gros pétard dans le lycée et plusieurs départs de feu. Des gens qui ont lancé des pierres sur le lycée, rentré dans le lycée pour saccager des choses. Et à la suite de ces incidents, les élèves ont été évacués de l'établissement. Certains sont rentrés chez eux, d'autres sont restés dans les rues adjacentes et sur le parvis et se sont fait charger par les forces de l'ordre. Avec une violence assez inouïe. Il y a 55 exactement personnes qui ont été interpellées par la police là, à la suite de l'évacuation du lycée, placées en garde à vue. 47 ont été libérées 36 heures après. C'est quand même une preuve que les arrestations, elles n'ont pas été ciblées du tout et que c'était très arbitraire. Quand on arrête 55 personnes et que 36 heures après, on en libère 47, forcément, c'est que les 47 étaient innocents.
Ouais, 36 heures, c'est long quand même.
C'est long quand on a 15, 16 ou 17 ans, 36 heures, en garde à vue, avec pour certains, des mauvais traitements, des conditions de détention qui étaient extrêmement rudes, avec des insultes racistes, quand on se fait traiter de pute, de choses comme ça, c'est pas forcément agréable, surtout venant de la part d'un policier quand même, qui est le représentant de l'État, et l'État qui est censé respecter la loi. Aujourd'hui, je participe à ce rassemblement sur la place de la Basilique parce que je pense que c'est tout simplement anormal ce qui se passe dans mon lycée aujourd'hui.
Jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé. Donc on en veut à la proviseur qui a mis nos enfants en danger parce qu'après la décision de sortir tous les élèves du lycée, en sachant qu'il y avait des policiers, et les jeunes et des policiers en face, donc ça pouvait partir en fumée. Mon fils fait partie des jeunes qui ont été interpellés et mis en garde à vue pendant 3 jours.
Alors, votre enfant vous a raconté ces 3 jours ?
Mon fils m'a raconté d'avoir été violenté, insulté avec des gros mots, vraiment, qui sont de la part des policiers qui sont là pour protéger la population. On est choqués de leurs propos et de leurs insultes et de leur manière de faire avec des mineurs. Donc il y a bien sûr des casseurs qui viennent profiter d'une situation pour casser, pour brûler, mais ceux qui ont été mis en garde à vue, ils ne sont pour rien.
Non aux violences policières. Suggère Bartholdi et Le Hard des moyens pour l'éducation. FCPE, parents enseignants de Saint-Denis.
Moi, je m'appelle Daniel Molvier-Sabet, je suis le président de la FCPE de Saint-Denis. Voilà.
Alors vous vous mobilisez, bien évidemment, après ce qui s'est passé
parce
au lycée
que...
Suggère.
Oui, parce qu'ils sont assez symptomatiques d'une situation plus générale qui fait que les jeunes en sont là aujourd'hui, mais aussi les jeunes sont, pas toujours, mais souvent en colère parce qu'ils sentent, ils vivent une situation d'échec. Et cette situation d'échec, elle vient de loin. Elle vient de la dégradation progressive des moyens du système éducatif, notamment sur Saint-Denis. Et malheureusement, les quelques mesures qui ont été prises, notamment les créations de postes, par exemple, qui ont été prises durant le dernier quinquennat, elles ont à peine servi à combler l'augmentation de la démographie. Donc les 80 000 postes qui avaient disparu en 2012, on est loin de les avoir retrouvés, au contraire. À ça s'ajoute quelquefois une gestion calamiteuse des choses, puisqu'on s'est trouvé... Par exemple, à la rentrée 2014, avec 20 classes qui n'avaient pas d'enseignants à Saint-Denis, dont 10 dans le quartier des Francs-Moisins, le quartier où se trouve le lycée Suger. Donc il y a le sentiment d'échec, le sentiment de ne pas être reconnu, de ne pas être accompagné. Et en plus, il y a les violences policières qu'on connaît, etc. Donc tout ça a fait monter une forme de colère qui a débouché sur quelques exactions que nous condamnons, parce que nous considérons que la violence n'est pas une solution, mais qui ensuite s'est traduite, dans le cas du lycée Suger, par des mesures de répression assez violentes de la part de la police. Et donc, nous demandons des comptes au ministère de l'Intérieur et même à la justice, puisque la procureure de la République a prolongé les gardes à vue de 24 à 48 heures. Il a fallu l'intervention des parents devant le commissariat et des élus de Saint-Denis pour que ces gardes à vue soient réduites à 32, 38 heures suivant les cas. Donc tout ça, c'est inadmissible. C'est pas une façon de traiter des mineurs, puisque la plupart sont mineurs. Et par ailleurs, nous demandons que l'éducation nationale ait les moyens d'accompagner nos enfants, aussi bien en termes d'enseignants qu'en termes d'éducateurs ou de surveillants dans les collèges et les lycées, pour éviter que des débordements de ce type puissent se produire. Aujourd'hui, par exemple, au lycée Suger ce matin, il y avait un seul surveillant à la porte du lycée. C'est tout. Il y a 5 surveillants pour 1200 élèves au lycée Suger.
Le rassemblement d'aujourd'hui prend une importance assez grande suite aux événements du lycée Suger qui ont montré Ce qu'on savait déjà, c'est que la jeunesse est en grande souffrance et les rapports police-jeunes sont très, très difficiles. Avec des façons de faire de la police qui sont plus que limites. On a de nombreux témoignages. Vous pourrez voir là sur un film qui va être installé là, qui raconte un peu avec les témoignages des uns et des autres de ces épisodes de lundi et mardi, du 6 et du 7 mars. Et ensuite, on passera vers 18h40 par des prises de parole de lycéens, de parents, de professeurs qui vous donneront leurs sentiments par rapport à ce qui s'est passé.
Pas de justice, pas de paix. S'esquisse une question parfois. À quoi sert la police ? À faire respecter la loi ? Ou bien à violer nos fils ? Et à faire respecter quelle loi ? De quel droit ? Les flics ne s'y soumettent pas, car ils ne font pas, n'est-ce pas ? Faudrait d'office poser la question des agressions, des coups de pression, des oppressions, l'obsession de faire taire celui qui pose trop de questions. Quelles injustices commettons au nom de notre protection ? La police est-elle chargée de ça ? Ou bien plutôt de gestion ? La police a-t-elle le monopole de la violence légitime ? Est-il légitime de se défendre lorsqu'on en est victime ? Est-on en droit de perdre son sang-froid devant les 10 crimes ? Lorsqu'on sait que lors du process que le policier dit prime, moi les non-lieux sévissent à l'issue des procès, c'est vite vu et trop fait, mais qui juge, c'est l'objet de ma question.
Dans ce pays, le flagrant délit, c'est son aspect.
Sur Suggère, Doc du réel.
Bah, hier, y a eu un tir dans le lycée. 20 minutes après, ils nous ont sortis du lycée. Après, il y a eu beaucoup de policiers. Et après, ça a dégénéré. Et ça a tiré. Les keufs, ils ont tiré sur n'importe qui. Et après, à la fin, les policiers, ils ont pris même des innocents et tout.
Je sais pas, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça à des filles, hein, franchement.
On était au moins une vingtaine de filles. Une vingtaine de filles, et le reste, c'était des garçons.
Oui, ils étaient assis menottés. Comme des chiens assis par terre, pendant 8 heures assis par terre. Franchement, elles sont choquées par tout ça. Hein.
Je laisse passer derrière moi, je suis obligée d'oublier. Il faut que j'avance, je ne veux pas rester que sur ça. Bande de noirs, bande d'arabes, vos voix de putes. Ouais, maintenant, c'est qui les putes maintenant, c'est vous les putes. Enfin, que des mots comme ça. Ça les amusait, quoi.
En fait, la directrice du lycée Suggère, elle a dit tout le monde sort. Et après, la police, ils ont commencé à prendre un petit peu des gens. Et là, ils ont interpellé tout le monde.
On était menottés. Il y en a, c'était vraiment serré, tu vois. Ils étaient tout rouges. Ils étaient au bord de faire un malaise et tout. Mais ils s'en foutaient, en fait. Et nous, on était obligés de rester calmes parce qu'on s'est dit on n'était pas à l'hôtel et tout. On pouvait rien faire face à eux. On pouvait juste rester par terre et voilà, c'est tout.
Les parents qui délaissent leurs devoirs à l'égard de leurs enfants qui s'engouffrent dans la délinquance, doivent être responsabilisés, y compris par la suspension des aides sociales. La majorité pénale doit être abaissée à 16 ans.
En fait, moi je vais en cours, comme tous les matins, sauf que ce jour-là, je suis arrivé à l'heure où le lycée est fermé, justement. Et là, j'ai vu des policiers qui étaient en train de battre mon cousin. Ils étaient en train de le taser, de le matraquer, c'était 5 sur lui, alors qu'il était déjà immobilisé. Donc là, je suis rentré dedans et je leur ai demandé d'arrêter. Ça a été pareil pour moi. J'ai été frappé, j'ai été tasé. On m'a ramené au commissariat, on m'a tiré. Des keufs, des policiers qui m'insultaient. Sale noir, bamboula, et plein de trucs comme ça. Ils disaient encore un Adama Traoré. Plein de choses qui piquent pour des gens comme nous. Demander un verre d'eau, on se faisait insulter. On demandait de desserrer les menottes un peu. Pour ceux qui avaient des menottes trop serrées, on se faisait insulter.
Ils ont commencé à me dire, je vais te niquer ta mère au commissariat, des trucs comme ça.
Ils ont tiré sur n'importe qui, hein, même des innocents.
On a fait les auditions. Ils ont poussé certaines personnes à dire des choses qu'ils ne voulaient pas. Ils leur ont dit, si vous dites, vous continuez à nier, eh ben, c'est chaud pour vous. Après, bah, moi, j'étais obligé de dire, d'inventer un truc pour qu'après, ils me laissent. Et voilà, c'est tout.
Toi, t'as inventé quoi ?
J'ai dit que j'ai mis le feu à une poubelle. Voilà.
Sur Suggère, Doc du réel.
Moi, je suis enseignante au lycée Marcel Cachin à Saint-Ouen. Et du coup, ben, je suis là en soutien des élèves, des parents et des collègues par rapport à ce qui s'est passé à Suggère et à la répression qu'il y a eu dans les lycées mobilisés dans le cadre du mouvement Touche pas ma ZEP et aussi contre les violences policières.
Et vous avez les mêmes problèmes de moyens, d'effectifs à Saint-Ouen, hein ?
À Saint-Ouen, bah, on est dans le même bateau, comme on dit. Tous les ans, il y a des fermetures de postes, de moins en moins de surveillants, des locaux qui sont catastrophiques, des profs pas remplacés. Donc on est vraiment dans une politique d'austérité gérée par le rectorat, que ce soit à Saint-Ouen, à Suggère, à Aulnay, partout, on est tous dans la même galère. et ça ne va pas en s'arrangeant. Et nous, on est là pour dire contre la répression, on veut des moyens pour l'éducation. Le lycée s'est mobilisé aussi pour demander plus de moyens. Et puis le maintien de nos lycées, de nos collèges dans l'éducation prioritaire, vu que là, ils sont en train de s'y attaquer, ce qui signifie beaucoup moins de moyens, alors qu'on a beaucoup plus de besoins.
Et comment vous expliquez ce qui s'est passé à Sugère ?
C'est simple, je pense qu'il y a un mépris pour notre jeunesse, clairement, et qu'on les traite comme du bétail. Et à chaque fois qu'il y a blocus ou qu'il y a... Même s'il y a quelques jeunes personnes turbulentes qui viennent un peu pour en découdre, c'est une minorité et en fait on en profite pour réprimer la majorité. En fait on est dans une période où les choses sont plus claires et plus visibles. Ça fait des années qu'il y a des collectifs contre les violences policières qui montrent à quel point les flics sont violents avec les jeunes des quartiers populaires, qui sont racistes, qui les traitent mal, qui sont aussi sexistes parce que quand ils parlaient aux filles, ils les ont insultés de tous les noms. Et en fait là j'ai l'impression que ça se révèle de plus en plus. Et puis on est dans une société qui est de plus en plus dure, donc la répression elle est de plus en plus dure. On voit juste le vrai visage de la police, je pense. Parce que ce soit l'affaire Théo, les crimes policiers, les violences au quotidien, il y a plein de collectifs qui les dénoncent. Il y a un collectif à Pantin, Comité de vigilance contre les violences policières, eux ils montrent la violence de la police contre les jeunes. La police, je sais plus, c'était un slogan, je crois. La police tue, la police mutile, la police humilie, c'est vrai quoi.
Et là, vous étiez à la marche dimanche pour la justice et la dignité.
Ouais. Pour protester contre les violences policières, donc il faut continuer quoi.
Et la colère monte doucement à ceux qui nous confisquent le sourire. Prenez ça comme un avertissement. Les gens se parlent, communiquent. Et la colère monte doucement.
Il est 14h, place de la Nation. Et le cortège va démarrer.
Les familles des victimes devant, s'il vous plaît.
Alors c'est les familles des victimes qui vont ouvrir le cortège.
Merci d'avoir répondu à l'appel des familles victimes pour la marche pour la justice et la dignité. En face de vous, vous avez toutes les familles qui ont perdu un proche à la suite d'une opération policière. Aujourd'hui, on est là pour leur dire que toutes ces affaires ne sont pas des cas isolés, mais qu'il s'agit d'un processus qu'il faut dénoncer, puisque nos frères, nos pères ne sont pas morts de la même façon ni pour les mêmes raisons, mais en tous les cas, le processus reste le même. Meurtre, violence, mensonge, criminalisation de la victime, de façon à justifier cette violence. Tout ça sous la protection de l'institution policière. On a monté une association qui est l'Observatoire national des violences policières. C'est une plateforme qui va recenser, qui va cartographier les cas de mort sur toute la France. Les cas de violences policières et les cas de contrôle aux faciès.
Ramata Dieng du collectif Vive Volé.
Je m'appelle Ramata Dieng. Je suis la sœur d'une victime de crime policier. La victime s'appelle Lamine Dieng. Il a été étouffé le 17 juin 2007 à Paris dans le 20e par 8 policiers du 20e arrondissement. Lamine était allongé face contre terre pendant toute l'interpellation en fait. À aucun moment il s'est trouvé dans la position verticale. Donc je précise cela pour que chacun se rende compte qu'un homme allongé face contre terre ne peut constituer aucun danger pour personne. Donc mon frère a été menotté sur la nuque avec un bras passé par-dessus l'épaule, l'autre plié dans le dos. Ils lui ont passé une ceinture de contention en cuir sur les chevilles. Ils l'ont traîné jusqu'au fourgon de police. Là, ils l'ont posé face contre terre et se sont agenouillés à 5 sur lui. Il y en avait un sur son épaule droite, un sur son épaule gauche, un sur son bassin, un sur ses jambes repliées jusqu'au fessier et un autre sur sa tête. Les médecins légistes ont relevé plus de 30 hématomes sur le corps de Lamine, dont une dizaine sur la tête. Ils ont relevé également du vomi dans tout l'appareil respiratoire de Lamine. C'est-à-dire que pendant qu'il était écrasé au sol, il a vomi et respiré son vomi. Ils ont relevé également un œdème cérébral et un engagement cérébelleux. Cela signifie qu'en clair, sous la pression du policier agenouillé sur la tête, le cerveau a manqué d'oxygène. Et le manque d'oxygène a fait gonfler le cerveau. Et il a tellement gonflé qu'il ne pouvait plus tenir dans la boîte crânienne. Et donc il a commencé à s'écouler par la seule issue possible, qui est donc le trou occipital, une zone qui se trouve au niveau de la nuque. Nous participons à cette marche aujourd'hui pour donner de la visibilité à ces crimes policiers et surtout l'impunité qui est accordée de fait systématiquement aux meurtriers. sous prétexte qu'ils portent l'uniforme de la police, et d'autre part pour sensibiliser la partie de la population française qui n'est pas touchée par ces violences policières et qui n'est pas non plus au courant de ce fait de société.
Le portier ne pardonne pas, l'immigration ne pardonne pas, et pour dehors,
on se bat pour plus de liberté. Ici et là, le déclin des démocraties a un charme que je ne capte pas. Le choix entre le choléra et la peste. On compte plus ceux qui retournent leur veste, étonnés de l'effondrement des régimes qu'on déteste, comme des endormis qu'on dérange pendant la sieste. Les illusions disparaissent et les masques tombent. Pensy, ils ont les chevilles fragiles, les mastodontes. Les gens se parlent, communiquent et la colère monte doucement à ceux qui nous confisquent le sourire. Prenez ça comme un avertissement. Les gens se parlent, communiquent et la colère monte doucement.
Ah, ah, oui, qui fout.
Marwan Mohamed, vous êtes sociologue.
Alors, on est en train de vivre un climat de tension particulier en ce moment entre police et jeunes à Sugère, mais plus globalement avec les jeunes des quartiers populaires, avec les gens même des quartiers populaires. Comment vous, qui êtes observateur de la question, vous analysez les choses ?
Il est aujourd'hui impossible de quantifier les brutalités policières, les violences policières ou même les tensions de basse intensité entre la police et la population. Quand je dis tension de basse intensité, ça va dans les deux sens. C'est pas forcément des policiers à l'égard de la population, c'est également une partie de la population plus ou moins jeune à l'égard des forces de police. Mais si on parle des violences policières, des brutalités policières, on parle quand même du représentant d'un corps de l'État qui incarne l'ordre, qui l'a fait respecter. On n'a pas ces données-là. Voilà, c'est pas quantifié, c'est d'ailleurs pour ça que dans le milieu associatif, un certain nombre de militants mettent en place, créent des observatoires des violences policières. C'est très nouveau que certains tentent d'établir une comptabilité à partir de coupures de presse ou de remontées de terrain. C'est bien pour pallier à cette espèce de carence volontaire que des militants, la société civile, s'organisent. Donc on ne sait pas, effectivement, le climat de tension, si on veut dire, est-ce que c'est pire qu'hier, est-ce que c'est plus visible ? Oui, c'est aujourd'hui extrêmement médiatisé, oui, ça devient très compliqué qu'il y ait un drame sans qu'il y ait une réaction. Oui, les familles de victimes de violences policières, notamment celles dont un proche est mort, s'organisent, sont solidaires entre elles, en tout cas la plupart d'entre elles. Et oui, il y a des convergences entre eux, des organisations syndicales, des partis politiques, et toute une série de mouvements très très différents les uns des autres. Donc oui, on n'est pas du tout dans le même contexte. Et on est dans le contexte où une marche pour la dignité, et notamment qui met l'accent sur les violences policières, permet de réunir 15 000 personnes à Paris, ce qui n'est pas rien.
Alors une chose, c'est que ce soit visible aujourd'hui, et après c'est qu'il y a une transformation politique et qu'il y ait effectivement une prise en compte de ces problèmes.
Alors je ne suis pas certain qu'au niveau du personnel politique au pouvoir, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale, je ne suis pas certain que ce soit un sujet qui soit pris à bras-le-corps. Certes, il y a des déclarations, certes, il peut y avoir des mesures symboliques. Il y a une différence entre les propos de Nicolas Sarkozy à la suite de la mort de Ziad Ebouna en 2005 et l'attitude de Hollande suite aux violences subies par Théo Nesoubois. Le premier criminalise les deux adolescents et se range à la version policière qui est aussi celle du parquet à l'époque, procureur. Et on a là le maire de Nesoubois qui est lui-même ancien syndicaliste de police, mais qui se positionne en tant que maire un peu pragmatique et conscient des enjeux, qui somme le parquet de qualifier les faits tels qu'ils ont été vécus, tels qu'ils sont présentés, et d'un chef de l'État, François Hollande, qui va rendre visite à l'hôpital à la victime. Alors bien sûr, il est en fin de mandat, bien sûr que au même moment, une loi a été votée qui étendait les possibilités d'usage des armes et qui assouplissait les conditions de la légitime défense. Mais c'est le vote d'une loi qui va accroître le risque d'usage, y compris létal, des armes par les forces de l'ordre.
C'est une conséquence directe de l'agression des quatre policiers à Viry-Châtillon en octobre dernier. Désormais, les fonctionnaires de police peuvent tirer plus facilement en légitime défense. Les nouvelles règles, quand un suspect cherche à s'échapper, pour arrêter un véhicule en fuite ou encore pour défendre un bâtiment ou une zone précise, les policiers peuvent désormais utiliser leur arme à deux conditions. S'il y a menace et après deux sommations.
Alors justement, Marwan Mohamed, pendant qu'il y a un semblant de prise de conscience politique, il y a en même temps ce qui vient de se passer à Sugère, c'est-à-dire une répression brutale contre des élèves d'un lycée. Du coup, on pense qu'il y a des avancées. Il y a eu effectivement cette marche. Avant, il y a eu l'affaire Bentounsi et la condamnation du policier qui a tué Amine Bentounsi d'une balle dans le dos. On a l'impression que ça avance, mais sur le terrain, en fait, la corporation a des pratiques qui ne changent pas.
C'est ça. Il faut distinguer deux choses. L'évolution des mobilisations, la vitalité des mobilisations, j'ai même envie de dire la professionnalisation par accumulation d'expérience des mobilisations. Et là, il y a des vraies avancées, que ce soit les collectifs qui sont créés, que ce soit les rapports entre les familles de victimes de crimes policiers, y compris la mobilisation des lycéens, avec des mots d'ordre parfois plus radicaux, parce que d'un côté, les familles disent justice pour Théo, et un certain nombre de lycéens ont dit vengeance pour Théo. Donc on n'est pas du tout sur le même registre, hein, même si on est du domaine de la pancarte, de l'affichage, mais quand même, ça reflète une certaine forme d'état d'esprit. Sur le plan concret de la remise en question de la doctrine, des pratiques et de la espèce de protection policière, là, ça avance très peu. Donc il faut distinguer les deux. Pas parce que les gens s'organisent mieux qu'ils ont beaucoup de débouchés et de victoires politiques. Et j'ai rappelé la loi d'extension de la légitime défense. Je rappelle également que pour qu'il y ait vraiment une prise en compte, une remise en question sur le long terme, il faut une autocritique de la part du ministère de l'Intérieur, une autocritique de la part des syndicats majoritaires qui sont extrêmement puissants, les syndicats de policiers, les gardiens de la paix, etc. Il faudrait que finalement, ce soit le fonctionnement, les objectifs, la structuration institutionnelle des forces de l'ordre qui soient remises en question. On n'y est pas. Et seul ça permettra d'avancer et peut-être de pacifier les relations ou en tout cas de démocratiser les relations sur le long terme. Alors bien sûr, il y a des avancées. On peut dire que la décision du tribunal de Paris, c'est la cour d'appel de Paris, de condamner le gardien de la paix qui a tiré sur Amine Bentounsi, c'est une victoire judiciaire, c'est-à-dire une reconnaissance de culpabilité par la justice d'un policier dans la mort d'un homme. Donc oui, bien sûr, pour la famille, c'est une victoire. Pour les mouvements qui ont soutenu la famille, les organisations et tous ceux qui portent ce combat contre les violences policières, c'est une victoire. C'est une victoire amère, parce que on peut regarder la peine en tant que telle par rapport aux actes qui lui sont reprochés. Et là, beaucoup vont y voir un décalage monstre avec ce qui se pratique habituellement pour des mises à mort dans les tribunaux.
Hashtag procès. L'avocat du policier qui a tué Amine Bentounsi annonce qu'il va plaider dans le cadre de la loi sécurité, votée le 1er mars 2017.
Palais de justice de Paris, vendredi 10 mars 2017. C'est le dernier jour du procès du policier qui avait tiré dans le dos de Amine Bentounsi.
Hashtag procès. La cour discute de la trajectoire de la balle qui a tué Amine Bentounsi. La seule certitude est que la balle est entrée par derrière.
Le 21 avril 2012, à Noisy-le-Sec.
Les échos de Saboudjian révèlent que lui et ses collègues se sentaient particulièrement protégés par le pouvoir.
Acquitté aux assises l'année dernière,
Amal Bentounsi est comme Antigone. Elle porte le poids de la dignité de son frère, Amine, face aux autorités.
Le procureur
demande à la cour de reconnaître Saboudjian coupable.
5 ans. Ça nous a pris 5 ans. Pour en arriver à cette condamnation. Somme toute symbolique, 5 ans de larmes, parce que la mort d'un fils, d'un frère, dans ces circonstances, c'est quelque chose qui ne s'efface pas. 5 ans de cris, parce qu'il a fallu se faire entendre, il a fallu défoncer le plafond de verre qui, dans ce genre d'affaires, empêche de dépasser le classement en faits divers. Alors oui, la cour vient de déclarer Damien Saboudjian coupable des faits qui lui ont été reprochés. Et oui, c'est une victoire. En demi-teinte, mais une victoire quand même. Je ne suis pas dupe. Je sais très bien que le peu que nous avons obtenu aujourd'hui est le fruit de notre mobilisation collective. Rien ne nous a été donné. Cette condamnation, aussi légère soit-elle, c'est le résultat de notre lutte et de notre détermination. Et de ce point de vue-là, C'est une vraie victoire.
Amal Bentounsi a obtenu justice pour son frère Amine. Beaucoup d'autres familles attendent encore.
Et pas qu'en banlieue parisienne. En ce moment, une marche est en cours à Montigny-en-Gouël, dans le Pas-de-Calais, pour demander vérité et justice et dénoncer le non-lieu suite à la mort de Lahoussine Haïtomgar, 25 ans, tué par 5 balles de la police.
Et maintenant, on va s'intéresser à un autre aspect de notre République pas si exemplaire, avec Guy Vanctil qui revient sur 2 ans de guerre au Yémen.
Oui, peut-être vous ne le savez pas, mais voilà 2 ans cette semaine que la coalition menée par l'Arabie Saoudite fait la guerre au Yémen avec le soutien des chancelleries internationales et au mépris du droit humanitaire international. Résultat, le pays est confronté aujourd'hui à l'une des plus graves crises humanitaires au monde. Près de 19 millions de personnes ont besoin d'assistance. Ça, c'est l'appel qu'ont lancé cette semaine des ONG, Médecins du Monde, Action contre la faim, CARE, Handicap International, Première Urgence, ACTED, Solidarité, toutes réunies pour tirer la sonnette d'alarme contre l'indifférence des grandes puissances, voire leur silence complice. C'est ce que dit aussi Amnesty International, qui appelle la France à cesser ses ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, responsable des principaux massacres de ces civils. Seulement voilà, nos alliés wahhabites sont notre plus gros client de matériel de guerre. 900 millions d'équipements livrés rien que l'année dernière, pour un total de 20 milliards d'euros au carnet de commandes pour les ventes d'armes françaises. Voilà peut-être ce qui pousse beaucoup à regarder ailleurs. En attendant, la France signe et le Yémen saigne.
On passe à l'édito étranger.
Plus de 2 ans de conflit, une guerre complexe et presque totalement oubliée.
Ils sont l'insoutenable visage d'une guerre oubliée.
Au Yémen,
la guerre et les bombardements sont devenus le quotidien de la population.
Une guerre oubliée.
Plus de 10 000 personnes ont trouvé la mort.
Les 10 000 morts en 2 ans sont dus pour 60% aux frappes saoudiennes et de la coalition arabe.
Face à la brutalité de ce conflit, les États-Unis ont suspendu récemment une livraison d'armes aux Saoudiens. Les autorités françaises, elles, nous affirment faire passer des messages.
Bon, je suis très fier des industries françaises.
Jean-Yves Le Drian.
Parce que vous êtes fier lorsqu'on vend des armes à l'Arabie Saoudite ?
Ministre de la Défense.
Et vous savez qu'on n'en vend pas énormément à l'Arabie Saoudite ?
La France est aujourd'hui le 3e exportateur mondial d'armes à travers le monde.
Ces armes continuent d'atterrir dans les mains de dictateurs et de terroristes pour finir par revenir en Europe.
Et en voilà un marché qui se porte plutôt très bien, celui des armes.
Car le royaume saoudien est un des principaux clients de l'armement français.
Si on ne le savait pas, la guerre est donc toujours une bonne affaire commerciale.
Pour une industrie qui, d'après le ministère de la Défense, pèse encore près de 200 000 emplois sur le sol français.
Au Yémen,
une guerre complexe est presque totalement oubliée.
Je pense que l'Arabie Saoudite, en tout cas à ma connaissance, est le premier client de la France en termes de la vente d'armes et que ces mêmes armes sont en train de tuer les innocents au Yémen.
On voudrait aussi que la France s'implique pour résoudre le conflit plutôt que soutenir la coalition et plutôt que de vendre des armes au mépris des traités qu'elle a signés.
Médecins du Monde, Paris 18e, conférence de presse organisée à l'occasion du 2e anniversaire de la guerre au Yémen.
Je suis la chef de mission d'urgence pour Solidarité Internationale. On est une organisation internationale qui est présente sur une trentaine de pays dans le monde.
Je suis le docteur Serge Grèce, je travaille à Action contre la faim, une ONG internationale qui travaille dans 45 pays. Jean-Pierre Delmier, je représente Handicap International.
Urgence humanitaire. Silence occidental. Implication de la France. Et quelques chiffres qui sont donnés sur les brochures avant de parler. 17 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire, 14,4 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable, plus de 600 établissements de santé et 1600 écoles ont été endommagées à cause du conflit.
Je vous rappelle qu'il y a 3 millions de personnes déplacées au Yémen du fait du conflit.
Donc je suis le docteur Serge Bresse, directeur expertise et plaidoyer à Action contre la faim.
Et vous faites partie des organisations qui se donnent rendez-vous cette semaine pour célébrer un triste anniversaire, c'est-à-dire le deuxième anniversaire des opérations lancées par la coalition menée en partie par l'Arabie Saoudite contre la rébellion au Yémen.
Un triste anniversaire, effectivement, avec un impact terrible sur les populations, puisqu'on voit aujourd'hui 17 millions de personnes qui ont besoin d'assistance humanitaire. On a des centaines de milliers d'enfants atteints de la forme la plus grave de la faim, hein, la malnutrition aiguë sévère, et qui ont besoin immédiatement de traitement pour ne pas risquer de mourir très rapidement. Donc la situation s'aggrave du fait du conflit.
La situation empire sur place, mais ce que vous pointez du doigt, c'est le blocage pour l'accès aux zones et pour apporter cette aide. Il y a des bateaux entiers qui sont bloqués avec de l'aide alimentaire, qui ne peuvent pas rentrer là-bas.
Par ailleurs, il faut signaler que 90% des denrées alimentaires sont importées au Yémen. Donc cet embargo aujourd'hui bloque aussi pour les populations l'accès à la nourriture, mais aussi où les humanitaires ont du mal à pouvoir se déployer pour apporter de la réponse. Aujourd'hui, nous on appelle au respect du droit humanitaire pour permettre l'accès à ces populations qui sont en état de pré-famine et de famine parfois et qui ont besoin d'une aide en urgence. On apprend que la France va encore vendre pour un certain nombre de millions d'euros des armes à l'Arabie Saoudite. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que la France s'implique sur le processus diplomatique qui amène et qui crée les conditions de la paix. Aujourd'hui, il y a un conflit. On doit faire pression. On est en période d'élection présidentielle. On doit faire pression sur les candidats, sur les politiques, pour qu'ils apportent des solutions. Et donc de réduire les souffrances des populations civiles qui, aujourd'hui, sont les premières impactées par ce conflit.
Situé dans le sud de la péninsule arabique, le Yémen est le théâtre d'une guerre civile qui a débuté par le renversement du président dans la capitale, Sanaa. Les rebelles sont les Houthis, une organisation soutenue par le grand pays chiite de la région, l'Iran. En réaction, les soldats loyalistes ont rassemblé derrière eux une coalition de 8 pays menée par l'Arabie Saoudite, le grand voisin du Yémen. Les frappes aériennes de cette opération, nommée « Restaurer l'espoir », ont causé la mort de milliers de civils comme ici à l'automne dernier. 140 personnes tuées lors d'un enterrement, l'Arabie Saoudite a reconnu avoir bombardé sur la base d'informations erronées. À cause des violences de part et d'autre, les organisations humanitaires n'ont accès qu'à 10% de la population et les premières victimes sont les enfants.
Alors, je suis Hélène Keo, je suis la directrice des opérations de première urgence internationale et on intervient au Yémen dans les domaines de la santé, la nutrition et la sécurité alimentaire.
Et vous faites partie de ces organisations qui sont ici cette semaine pour tirer une nouvelle fois la sonnette d'alarme après 2 ans du conflit sans aucun signe de faiblissement et au contraire, là, la situation humanitaire s'empire à mesure que le pays est de plus en plus enfermé par ce blocus.
On est sur une situation qui ne fait que s'empirer, à la fois en termes de besoins pour les populations. On parle d'infrastructures de santé, d'incapacité à accéder à de la nourriture.
Parce qu'il n'y a plus de routes, plus de ponts.
Les infrastructures civiles sont ciblées, qu'on parle d'hôpitaux, qu'on parle d'écoles. On est notamment sur les aéroports et les ports qui sont soit détruits comme l'aéroport d'Hodeïda, soit...
C'est le grand port qui est sur la mer Rouge.
Qui est à 10% fonctionnel et sa fonctionnalité n'est certainement pas dédiée à l'approvisionnement des biens humanitaires.
C'est des armes.
Alors, moi, j'en ai pas l'information précise et je ne veux pas me permettre d'affirmer quelque chose que je n'ai pas ni vu ni dont j'ai la certitude.
Surtout si vous voulez continuer à bosser là-bas.
En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a un réel blocage de toute capacité d'approvisionnement des biens humanitaires. Un bateau qui, depuis 2 mois, attend du côté d'Aden pour pouvoir permettre à nos équipes d'avoir les intrants suffisants.
Le bateau est là, les médicaments sont là, mais il ne peut pas entrer.
Le bateau est là, les médicaments sont là, mais il ne peut pas accéder à ce port-là spécifique, ce qui veut dire que qu'on a des équipes qui continuent leurs activités, mais on n'a pas les moyens suffisants pour être à la hauteur des besoins qui sont face à nous.
La France s'est engagée en 2014 à ne pas vendre des armes à un pays qui bafoue le droit. Aujourd'hui, on sait que la coalition, comme la partie opposée, ne respecte pas le droit international, ne respecte pas le droit des populations.
On a des leviers, on peut s'appuyer dans le cadre du traité du commerce des armes sur des mesures qui sont certes ne sont pas contraignantes, mais qui permettent à un État de pouvoir questionner le soutien militaire, la vente d'armes à des pays qui ont entre-temps modifié leur stratégie de respect ou non du droit humanitaire international.
Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Delomier, je suis le directeur de l'action humanitaire de Handicap International. Et en effet, au Yémen, il y a une crise qui n'est pas sous les feux des projecteurs aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on est un peu tanké dans un certain nombre de centres de santé ou dans des hôpitaux. Et ce sont plutôt les personnes blessées qui viennent vers nous, là où sur d'autres terrains, nous irions à leur rencontre. Comme nous le faisons au Kurdistan, comme nous le faisons en Syrie aujourd'hui, et comme nous aimerions le faire au Yémen.
Mais alors justement, la Syrie, on en parle beaucoup parce que les réfugiés arrivent jusqu'à nos côtes en France. C'est un peu le kilomètre affectif qui fait qu'ils sont concernés ou pas. Le Yémen, hors de question, vous avez décrit les uns et les autres un pays enfermé, bloqué. Pourquoi on n'en parle pas en France? Est-ce que c'est simplement ces questions de distance ou est-ce que ça fait partie des zones aveugles de notre politique, des zones grises?
Disons que certainement, ça fait partie de ces zones un peu grisées parce qu'à un moment donné, il y a un phénomène de priorité qui joue. Ça veut dire qu'une crise en occulte une autre. Et donc, de fait, aujourd'hui, il y a un phénomène d'éclipse, mais aussi, sans doute, dû à des intrications qui font que nombre d'États du Nord sont d'une manière ou d'une autre belligérants dans un conflit. Alors, c'est assez indirect, bien évidemment, puisqu'aujourd'hui, cette coalition est pilotée par l'Arabie Saoudite, mais certains nombres d'accords, qui peuvent être commerciaux au sens large, font que, de fait, on n'est pas complètement en marge.
Oui, ça commence même à tiquer. Il commence à y avoir une série d'articles sur les derniers contrats qui ont été signés à grand renfort de publicité, parce que c'est bon pour la balance commerciale française. On vend des armes, on vend des munitions. On a finalement réussi à écouler nos rafales. Mais voilà, après, ils servent. Après, ils ont une utilité.
Bien sûr, tout à fait. Et c'est aussi pour ça que, étant donné ce que nous sommes, nous, ces organisations non gouvernementales, nous devons nous indigner de certaines situations et utiliser, si j'osais ce parallèle, les armes qui sont les nôtres pour pouvoir prendre conscience de ces situations-là et faire en sorte de les porter. Alors c'est vrai que nous, en tant qu'ONG,
vous n'êtes pas là pour parler politique.
Absolument pas. Et ce n'est pas notre travail, encore une fois. Mais il y a aussi des organisations de plaidoyer qui sont en mesure d'apporter des éléments concrets pour étayer le propos. Merci.
Attendez, excusez-moi, flash spécial. J'apprends à l'instant que Michael Jackson, oui, Michael Jackson est mort. Quoi ? Michael Jackson est mort ? Merde !
Ouais, pendant le même temps, des millions d'innocents, des vieux, des femmes et des enfants meurent à chaque instant. Une vie ne vaut pas une vie, une mort non plus. Aujourd'hui, nous accueillons Saïd, 7 ans. C'est à vous.
Je m'appelle Saïd, 7 ans, je suis mort aujourd'hui au Sahel. J'aurai plus jamais soif, pas comme maman et d'ici je pense à elle. Mais d'elle, qui s'en soucie personne, putain mais bordel. T'es au courant pour Michael Jackson? On oubliera bientôt l'Irak, l'Iran, les talibans, l'Afghanistan. Et bien entendu tous les bons, la télé rencontre bien des gens. Tu t'en rends compte, c'est pas du cinéma, Michael Jackson est mort. Quand le visage pas l'attaque, il écoute pas l'OTAN, ça pue l'intox. Et même si c'est politique, ça n'explique pas les tanks. Non, les pilotes n'ont pas le temps. C'est quoi si c'est pas les thunes? C'est qu'on nous laisse que dalle. Et pas par accident. Alors au risque de tomber, on escalade jusqu'à l'eau. C'est pas du cinéma, on a fait ça nous-mêmes. Et si nos mots te font flipper, regarde où ça nous mène. C'est pas du cinéma, on a fait ça nous-mêmes. Et si nos mots te font flipper, regarde où ça nous mène.
Calling Care International in Yemen. The Grand Islamic Republic of Yemen. We have no attendants available now. Please leave your message.
Marina Benedic, la coordinatrice générale de Médecins du Monde au Yémen et ailleurs.
Vous en revenez il y a de ça quelques semaines?
Mais je viens de là-bas et je confirme que l'Arabie Saoudite, avec ses alliés, par ses avions et d'autres moyens militaires dont moi je ne connais pas
les noms qui...
C'est pas votre spécialité, vous, les armes.
Ah non, je suis humanitaire. Mais en tout cas, si on parle de l'Arabie Saoudite, c'est un fait qu'elle bombarde tous les jours, ou presque tous les jours, et des fois plusieurs fois par jour, des cibles civiles, hommes, femmes, les enfants, tout le monde, chez eux, dans leurs hôpitaux, dans leurs centres de santé, dans leurs écoles. On vend les armes qui sont en train de tuer des populations dans un pays et on n'en parle pas, quoi.
Et c'est en ça que les Français devraient s'en soucier. Parce que peut-être qu'ils ne peuvent rien faire sur le Yémen, mais ils peuvent faire quelque chose à l'occasion de ces élections sur les choix diplomatiques et géostratégiques faits par les France qui arment l'Arabie Saoudite.
Absolument. Je pense que l'Arabie Saoudite, en tout cas à ma connaissance, est le premier client de la France en termes de la vente d'armes et que ces mêmes armes sont en train de tuer les innocents au Yémen et qu'en France, on en parle très peu sous la souffrance d'un peuple entier. Et il est peut-être le temps, en tout cas, c'est déjà bien tard pour beaucoup de monde, mais il faut dire, arrêtez de vendre des armes aux pays qui sont en train de bombarder des civils.
16 milliards de ventes, c'est 16 un record.
Milliards,
16
un
milliards,
record.
C'est un record, oui. C'est le double de l'année précédente.
Ouais.
Et c'est le double, l'année précédente, c'était déjà le double de l'année antérieure, ce qui fait qu'on bat un record, oui. Moi, je suis très fier des industries françaises. Parce
et
que...
vous êtes fier lorsqu'on vend des armes à l'Arabie Saoudite?
Mais vous savez qu'on n'en vend pas énormément à l'Arabie Saoudite, c'est un thème récurrent.
Alors justement
L'Arabie Saoudite est un partenaire de la France, il importe d'ailleurs
qui bafoue
que
les droits de l'homme,
c'est malheureusement...
Qui décapite comme Daesh d'ailleurs.
Oui, nous sommes tout à fait opposés à la peine de mort, ça ne nous empêche pas de parler avec des pays dont il faut s'assurer la stabilité.
Qui bombardent au Yémen.
Des
populations civiles.
Il y a un conflit au Yémen, mais qui est un conflit où on voit à la fois des bombardements d'un côté et de l'autre. Ce qui nous importe, c'est que l'Arabie Saoudite se stabilise.
C'est pas du cinéma, on a fait ça nous-mêmes. Et si nos mots te font flipper, regarde où ça nous mène.
La France défend ses intérêts, et défend ses intérêts de sécurité. Et pour défendre ses intérêts de sécurité, elle a des partenaires. L'Arabie Saoudite en fait partie, mais ce n'est pas le seul.
Jeudi matin, après les locaux de Médecins du Monde, dans le 18e arrondissement, nous voici juste derrière la Tour Eiffel, aux Invalides, dans le 7e arrondissement. Devant donc cet ancien hôpital militaire et un monument qui est le monument le plus platouille, fadasse, tautologique récemment construit à Paris, le mur pour la paix, une espèce de pièce montée en verre et en écriture qui prétend faire réfléchir sur la paix dans le monde, mais bon, ça je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Et c'est là où Amnesty International a donné rendez-vous à l'occasion du deuxième anniversaire, du deuxième triste anniversaire de la guerre au Yémen. Amnesty International a voulu rappeler et dénoncer le fait qu'un des principaux fournisseurs d'armes, c'est nous, c'est la France. Alors cette semaine, pour marquer les 2 ans de ce conflit dans lequel nous sommes impliqués en tant que fournisseurs d'armes officiels de l'Arabie Saoudite, à cette occasion, disais-je, Amnesty International veut tirer la sonnette d'alarme.
Alors Nina Val, je suis chargée des conflits armés pour Amnesty France.
Conflits armés, justement, ça tombe très bien pour un auditeur français qui n'a pas suivi les actualités depuis 2 ans. Comment on pourrait lui résumer en 2 minutes ce qui se passe en ce moment au Yémen ?
Oula, en 2 minutes. Alors, il y a exactement 2 ans, une coalition menée par l'Arabie Saoudite, constituée de plusieurs pays arabes, a déclenché un conflit armé d'une grande ampleur au Yémen. Cette coalition soutient l'actuel président qui a dû fuir le pays.
Qui est en Arabie Saoudite, justement.
Qui est en Arabie Saoudite, voilà, Riyad. Il a fui le pays suite à une avancée importante du groupe armé qui s'appelle Houthi, des chiites qui viennent du nord du pays et qui ont avancé vers le sud, qui ont pris la capitale et qui ensuite ont continué à avancer vers le port et qui actuellement contrôlent, on pourrait dire, la moitié du pays. Donc cette coalition, à l'appel de l'actuel président Hadi, a commencé son intervention militaire au Yémen. Ce qui nous inquiète, nous, Amnesty International, c'est la façon dont elle intervient au Yémen, puisqu'elle n'épargne pas les civils, voire elle cible les infrastructures civiles, les marchés, les hôpitaux, les écoles. Sachant qu'il y a plusieurs parties à ce conflit.
C'est comme souvent, c'est un jeu à 5 ou 6 bandes.
Complètement.
Donc, les intervenants directs, ceux qui les soutiennent et ceux qui les arment.
Complètement. Et c'est aussi pour ça que nous sommes là aujourd'hui, parce que la France fait partie de ce pays qui livre des armes à l'Arabie Saoudite.
Moment d'horreur, l'immeuble brûle quand un second missile frappe le lieu où les secours arrivent. Des missiles qui ont donc frappé des funérailles, plus de 140 morts selon l'ONU. L'Arabie Saoudite est montrée du doigt car elle est à la tête de la coalition qui soutient le pouvoir en place. France-Arabie Saoudite 1, Yémen 0, peut-on lire sur les réseaux sociaux.
Alors nous voilà au pied de la tour Eiffel sur le Champ de Mars devant l'école militaire. Je vois quelques tombes qui sont posées, des tombes sur lesquelles il y a écrit « Les civils ne sont pas des cibles ». Et j'imagine que l'autre phrase est écrite en arabe.
C'est la traduction en gros.
Al-Mudayinoun laysu ahdafan.
Les civils ne sont pas des cibles. Et voilà, il y a une banderole qui est dressée devant les tombes, pile dans la perspective pour la photo. Conflit au Yémen, la France complice.
Aymeric Éloin, Charles Plaidoyer, armes et impunité. Amnesty France.
Armes et impunité, vraiment, c'est parfait. Comme libellé pour cette histoire franco-saoudo-yéménite.
Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate depuis deux ans que le conflit a démarré, que la coalition, comme les autres parties au conflit d'ailleurs, que sont les Houthis, tous pratiquent des crimes de guerre. Tout ça est documenté, tout ça est connu, que ce soit les Nations Unies qui suivent l'embargo sur le Yémen, que ce soit les ONG comme la nôtre, que ce soit certains médias. On est depuis deux ans sur plusieurs dizaines de situations qui sont susceptibles d'être qualifiées de crimes de guerre. Donc c'est extrêmement grave. Et ce qu'on constate en parallèle, c'est que les fournitures d'armes continuent. La France, dernièrement, a livré pour 900 millions de matériel, rien qu'à l'Arabie Saoudite, et rien que pour ce pays. En 2015, la France l'a délivré pour 18 milliards de licences. Et voilà, ça continue. Et aujourd'hui, on voit d'un côté les fournitures d'armes qui mettent de l'huile sur le feu, qui viennent alimenter les atrocités commises par la coalition notamment, que la France et d'autres soutiennent fermement. Jean-Yves Le Drian l'a répété à plusieurs reprises, nous serons toujours aux côtés de notre allié l'Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qu'on constate ? On constate une situation schizophrénique. On fournit les armes. La France peut dire qu'elle fournit l'aide humanitaire via le programme Éco de l'Union Européenne, parce que c'est le budget de l'Union Européenne, voilà. Hein. On soutient le processus de paix.
Donc on est en amont du conflit, puisqu'on fournit des armes, et on est en aval, puisqu'on fournit l'aide humanitaire.
Et on sait que les équipements français, par ailleurs, il y a un risque, forcément, évidemment, qu'ils servent à commettre de tels crimes s'ils sont utilisés au Yémen.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à ce jour, à l'heure qu'il est, ce sont les armes françaises qui sont utilisées dans les opérations et dans les crimes de guerre qui ont lieu au Yémen, n'empêche
que le risque est là.
C'est cette armée qu'on est en train d'équiper.
Tout à fait, exactement. Et d'ailleurs, les armées de la coalition utilisent des équipements français. Hein.
Oui. Les Émirats arabes.
Les Émirats arabes qui ont utilisé le Charles Leclerc, le Mirage 2000, les Saoudiens qui utilisent le canon César. Bon, aujourd'hui, on n'a pas de preuve qu'il y ait un lien de causalité entre l'utilisation de ces armes et les crimes. Mais le risque, il est énorme. Il est colossal, ce risque. On ne peut pas se permettre aujourd'hui que des équipements français puissent servir à commettre des atrocités au Yémen. Et la situation aujourd'hui est à ce point dramatique que c'est tout un pays qui va être plongé dans la famine. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un deux poids, deux mesures ? Est-ce qu'on ne peut pas faire plus aujourd'hui ? Et nous appelons à faire plus. Parce que demain, ça va se reproduire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a voulu alerter. Bousculer un peu les esprits en disant, il faut agir aujourd'hui. On ne peut plus se permettre de laisser mourir une population et s'installer l'instabilité dans toute la région.
C'était Comme un bruit qui court. Merci à toutes et à tous. Toutes les informations sont sur le site de France Inter. N'hésitez pas à nous laisser des messages et à vous abonner au podcast. Juste après les infos, les routes de la musique avec André Manoukian. Et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.